Table.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découvert, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianzetto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour Alain et Amaury.
Bonjour. Bonjour à vous.
Je suis très heureuse de vous recevoir dans ce nouvel épisode Personnalité de Sur le Grill d'Écotable. Alain, on ne vous présente plus, vous êtes un monument de la gastronomie française, si je peux me permettre l'expression. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'environ 30 restaurants dans 10 pays du monde. On y trouve des 3 étoiles, des bistrots typiques parisiens, des brasseries décontractées. À côté de cela, vous avez créé une école, une maison d'édition, des manufactures de produits d'exception comme le chocolat ou le café. Vous êtes également membre cofondateur du Collège culinaire de France. Vous avez fait tant de choses qu'il est difficile de vous présenter. Je vais vous laisser le faire tout de suite. Amaury, vous êtes le chef exécutif du restaurant Le Meurice. Après un lycée hôtelier, vous avez intégré le groupe Ducasse, je me permets de tutoyer, et tu ne l'as plus quitté, jusqu'à devenir chef exécutif de ce bel établissement. Donc c'est un épisode un peu particulier puisqu'on est en duo avec vous deux aujourd'hui, mais je suis sûre que ça va être d'autant plus riche. Je vais commencer par faire votre portrait de cuisine. Le but, c'est de vous présenter un peu différemment d'habitude par l'alimentation. Donc je vais vous demander de répondre très spontanément à mes questions. Vous êtes prêts ?
Prêt.
Si vous étiez un ingrédient, Alain ?
Un filet d'huile d'olive ou une asperge.
Ou une asperge. Pourquoi ?
Parce que d'abord, c'est issu de ma région. Ça pousse caché dans le sable. J'aime beaucoup ce goût. Certainement, c'est le goût de l'enfance parce que ça n'a poussé pas dans mon jardin, ça a poussé chez les voisins. Et c'était toujours agréable de se faire offrir les premières asperges par les voisins. Voilà, ça me rappelle un souvenir d'enfance délicieux.
Amaury ?
Moi, l'oignon.
L'oignon ?
Ouais, j'aime l'oignon en cru, en cuit. C'est un côté, ça peut être frais, ça peut être aussi sucré. J'aime beaucoup travailler l'oignon en brûlé. Voilà, c'est très intéressant comme produit.
Si vous étiez un plat, Amaury ?
Blanquette de veau.
Blanquette de veau. Et vous, Alain ?
Un plat de légumes. C'est la synthèse de ce que j'ai dans le jardin, de ce que je sais faire avec, à la juste température. Au juste assaisonnement, un plat délicieux puisqu'il va préserver l'ADN de chaque ingrédient qui compose le plat.
Si vous étiez un ustensile de cuisine, Alain ?
Très clairement, on a dessiné avec Patrick Jouin un pasta-pote. Ça permet d'apprendre aux Italiens à cuire les pâtes. C'est pas rien, d'apprendre aux Italiens à cuire les pâtes puisqu'on a décidé un jour que les pâtes courtes, sèches, on les cuisait comme du riz, c'est-à-dire en absorbant le bouillon, un bouillon de légumes, pour la plupart du temps, un bouillon végétal, qui permettait aux pâtes de s'imprégner de la saveur du bouillon et ensuite de la condimenter de ce qu'on veut. Mais en tout cas, on a travaillé longtemps sur cet ustensile idéal qu'on nomme Pastapote, et c'est édité par Alessi.
Ah, génial, donc on peut se le procurer.
Oui, encore.
Et
moi,
toi,
c'est
moi
un barbecue.
Un barbecue.
Ouais, barbecue, le côté... Le rapport avec la flamme, la cuisson, ça me plaît beaucoup.
Tu cuisines au barbecue aujourd'hui ?
Ouais.
Ok. Si vous étiez une boisson, Amaury ?
Je pense du champagne. L'élégance, le raffinement, le côté, les bulles, le début d'un repas, j'aime beaucoup.
Et vous, Alain ?
Pas de chance, j'aime dire la même chose. Mais là, je viens de. Nous venons d'éditer au Japon dans une bouteille de champagne. Pour l'élégance, un saké pétillant, un sparkling saké, et je viens de le goûter finalement, champagne saké, même combat, j'adore aussi. À la
ça doit être intéressant.
Oui, très, très. Je vous invite à le goûter tout à l'heure.
Avec plaisir. Si votre dernière émotion en matière d'alimentation, la dernière fois que vous avez eu une grande émotion en matière d'alimentation, Alain ?
C'est en mangeant ici, la semaine passée, Amaury me surprend, j'essaie de le pousser à me surprendre encore plus. Il y avait de l'amertume, il y avait tout ce qu'il faut, il y avait de la fraîcheur, il y avait une vraie personnalité, une vraie caractéristique. Il a trouvé sa route, cela me plaît beaucoup. L'harmonie du début à la fin du repas, cela tombe juste, c'est pas évident. Donc il a trouvé sa route, donc c'était ma dernière émotion. Et j'espère que ça sera la semaine prochaine la même chose, mais la semaine prochaine il est en vacances, donc je vais revenir
à la rentrée
de la semaine.
Amaury?
Moi, j'ai été manger chez Florent Pétraval il y a quelques jours à la Mirande.
Qui est aussi écoutable.
Exactement, exactement. C'est un jeune, pareil.
À quel âge ?
Il a une trentaine d'années. Hein.
Ouais, il doit avoir 30, ouais, 35 ans.
Je suis poli, je vais pas demander, mais on a passé un super moment et il fait un plat autour d'une crème réfort avec une gelée, du caviar et tout. C'était très intéressant. Différentes textures, différents goûts. Une salinité, un côté gelée de bœuf, le réfort qui rapportait de la puissance et tout. Franchement, c'était sur tout le repas, mais c'est vrai que c'était un plat marquant et très, très surprenant.
On voit bien le peps, la différence de ce plat, cela me plaît.
Votre Madeleine de Proust en matière d'alimentation, Alain?
Très clairement, hein, c'est encore une fois, hein, c'est une cocotte de légumes à la juste température, parfaite assaisonnement au filet d'huile d'olive. Ben c'est avec des légumes cueillis quelques minutes ou quelques heures avant, qui n'ont pas vu le frigo. La température tiède me plaît. Le juste assaisonnement, c'est-à-dire quelques graines de fleur de sel, un filet d'huile d'olive, la tiédeur en fait, et la boisson qui va avec. Et la boisson qui va avec, c'est tout, puisque c'est en fait le vin que vous avez envie de boire avec, puisque c'est une décision que ça va marcher, puisque cela est modeste, cela est le ton juste en termes de température, d'assainissement, de réduction de cuisson, préserver le goût originel.
Où est-ce que ça vous vient, cet amour des légumes? Ça vient de l'enfance?
Enfin, moi, je suis né dans un jardin et il y a quelques années maintenant, on va dire qu'il y a 50 ans, ma grand-mère disait à 11h30, elle disait « Et qu'est-ce qu'on mange à midi ?» On allait au jardin, on allait regarder ce qu'il y avait à parfaite maturité. On récoltait, on écossait, on assaisonnait, on cuisait. Souvent, un petit bout de lard du cochon de la ferme qu'on avait mis en salaison l'hiver. Et cela suffisait parfaitement à mon déjeuner. La protéine animale était une protéine du week-end. C'était les pièces de bœuf qu'on allait acheter chez le boucher. Mais sinon, c'était les volailles de la ferme. C'était déjà très végétal parce que la ferme nous nourrissait. Et très clairement, le jardin alimentait nos déjeuners.
Aujourd'hui, vous arrivez à retrouver ce goût de l'enfance?
En fait, c'est l'immédiateté. Oui, dans un jardin dans lequel on va, et 2 heures avant, on va cueillir les légumes qu'on va manger dans chacune de mes auberges. Et ici aussi, on cultive en Île-de-France des légumes qui nous arrivent dès le matin, parce que c'est bien de ramasser les légumes avant, tant que la rosée est là, ou en fin de journée, quand il s'agit de fruits qui ont gardé un melon, une pêche, une figue qui est ramassée en fin de journée, qui est gorgé de soleil, comme je dis, ça n'a pas d'équivalent gustatif nulle part dans le monde. C'est la proximité de là où vous produisez, de là où vous récoltez, de là où vous élevez.
Amaury, Madeleine de Proust.
Moi, c'est un peu comme le chef. C'est un souvenir d'enfance. Quand on était petit, j'avais beaucoup de temps, les vacances, les week-ends chez ma grand-mère, parce que mon père travaillait beaucoup. Et elle faisait un plat le vendredi parce que c'était catholique chez ma grand-mère. Donc du coup, le vendredi, c'était le poisson. Elle faisait comme une blanquette de veau, mais avec du poisson, avec une sauce un peu, un roux détendu au lait, quelques champignons de Paris émincés, du riz et un poisson du retour du marché, ce qu'il y avait au moment et tout. Et franchement, on mélangeait tout, parce que souvent, il y avait une surcuisson. Donc le poisson cuit à la vapeur, mais surcuit avec cette sauce. Et on mélangeait ça avec le riz, avec mon frère. Je sais pas, c'est un souvenir. Moi, ça me donne beaucoup d'émotions. Et à chaque fois que j'y vais encore, je lui demande. C'est pas visuellement, c'est pas très beau, mais gustativement, moi, c'est retour en enfance, quoi.
Tu arrives encore à cuisiner après des heures au restaurant chez toi?
Ouais. Après, j'ai la chance que ma femme cuisine très bien, donc je suis très heureux quand elle s'y met aussi.
Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez au quotidien, tous les deux, Alain?
Oui, on essaye. Ce soir, je sais que j'ai un très beau dîner. Je suis pas sûr que je vais faire très attention. Demain, ça va être plus léger, donc ça va laisser une question d'équilibre, en fait. Mais le plaisir est addictif. si on n'a pas d'amour pour ce que l'on mange, si on n'a pas la passion quotidienne d'imaginer qu'on va goûter aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas encore goûté hier, c'est cette quête permanente d'avoir la certitude que la semaine prochaine, avec certitude, je vais goûter quelque chose, je vais rencontrer un jeune qui va me préparer quelque chose que je n'ai pas encore goûté. C'est ça qui me séduit, c'est ma quête permanente de découvrir des hommes et des femmes qui ont du talent, et le talent est partout, partout dans le monde. Là, je rentre à l'étranger, voilà, j'ai rencontré des produits, des justes assaisonnements, des justes cuissons, du talent partout.
Amaury ?
Moi, j'ai la chance, je prends pas de poids, donc je regarde jamais ce que je mange. Pour l'instant, je continue comme ça. Je veux dire, pour comprendre, il faut goûter. C'est vrai que je mange. Après, c'est vrai que je me fixe comme règle de manger assis et à heure fixe pour avoir quand même une hygiène de vie correcte.
Mes deux dernières questions de ce portrait de cuisine, ça sera ce que vous aimez le plus dans votre métier, mais aussi ce que vous détestez le plus dans votre métier. Amaury.
Moi, ce que j'adore le plus, c'est le côté humain. Le rapport à l'homme, le rapport à la terre, les explications. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un monde où on s'éloigne un peu de tout ça. Et nous, on a besoin de ce côté humain, des clients, du retour. Tous les soirs, moi, je vais en salle, on demande le retour, on se parle, les équipes, la communication. Ça, c'est très, très important. Et je pense que ce que j'aime le moins... Ça, c'est une bonne question. Ce que j'aime le moins, c'est une très bonne question.
Alain ?
Moi, ce que j'aime le plus, c'est d'imaginer une rencontre avec un homme ou une femme qui va me faire découvrir quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je n'avais pas imaginé goûter hier, que je n'ai pas encore goûté. Et ce que j'aime le moins, c'est d'imaginer qu'un produit a été massacré par l'inattention, par la mauvaise cuisson, le mauvais assaisonnement. J'ai toujours une volaille morte pour rien, parce que finalement, quand elle a été massacrée par le cuisinier qui n'a pas fait attention, parce que bien faire ou mal faire, ça prend souvent le même temps. C'est une question d'attention portée à la chose que l'on cuisine. Donc, je comprends la difficulté, mais je ne comprends pas la médiocrité. Donc voilà, à la fois découvrir quelque chose que je connais pas encore, et je n'aime pas la médiocrité de pas faire attention à ce que l'on fait, parce que tout le monde n'a pas accès à la nourriture sur la planète. Donc quand on a la chance d'y avoir accès, tant que faire se peut, celui qui prépare, il doit le faire avec du cœur. Et d'ailleurs, l'ingrédient supplémentaire après un assaisonnement, une cuisson, etc., c'est le sentiment que l'on donne à préparer quelque chose. Il faut le faire mieux, parce que nous faisons un métier de partage, de générosité, de faire plaisir à l'autre. Il faut le faire du mieux qu'on peut. C'est la satisfaction que nous retirons de notre métier.
Amaury, t'as trouvé ?
En fait, je rejoins le chef. C'est vrai que là-dessus, c'est... Après, moi, j'adore ce...
Donc c'est le stress.
En fait, j'appelle pas ça un métier. Moi, pour nous, c'est une passion. C'est quelque chose qui nous prend, comme le chef le disait. Quand on fait ça par amour, quand on a les tripes qui sont là, voilà, c'est... C'est un moment inexplicable. Pour moi, c'est inexplicable. C'est quelque chose qui est... Voilà, c'est... Mais j'ai un amour fou pour ce métier, donc...
C'est bien l'éco-positif, ça. Moi, j'aime bien l'idée qu'il déteste rien. C'est bien, ça viendra.
Ouais, c'est beau. Je vais vous laisser vous présenter tous les deux de manière plus traditionnelle. Qui êtes-vous ?
Moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis chef exécutif du Meurice Alain Ducasse. J'ai fait tout mon parcours après le lycée hôtelier de Soissons, en commençant par Monaco. Ensuite, je suis remonté à la capitale après cette découverte avec la cuisine méditerranéenne. Je suis remonté à Paris, au Plaza Athénée, où je suis resté 6 ans avec Christophe Moret, Christophe Saint-Agne et Romain Médère. 3 chefs, 3 types de cuisine différentes, mais avec la même ADN, celle du chef Alain Ducasse. Et départ pour une maison un peu plus bourgeoise, la maison Lasserre, où j'ai passé 2 belles années aux côtés d'Adrien Trouillou. Et l'opportunité s'est présentée à moi de rejoindre Jocelyn Arland ici, il y a 6 ans, où j'ai pu bouger. Je suis arrivé au bout de la chaîne.
Donc du début jusqu'à la fin, avec Alain Ducasse, jusqu'à la fin, je ne sais pas. Mais...
Moi, j'ai toujours apprécié, et je pense que la fidélité, c'est parce qu'on aime les choses. Et moi, je suis tombé amoureux à Monaco de la vision... de la cuisine, des principes et des valeurs du chef Alain Ducasse, son ADN. Après, j'ai vu différentes cuisines, différents types, différents concepts, mais avec la même ADN, la même colonne vertébrale. Et c'est ça qui m'a plu et qui me plaît encore aujourd'hui. Voilà, c'est pourquoi changer quand on est bien. Pas d'intérêt.
Moi, si j'avais pas de cuisinier, j'aurais été voyageur architecte. Aujourd'hui, je suis l'architecte de mes lieux. Je suis un voyageur. Je suis en quête permanente de découvrir des choses que je ne connais pas, des goûts, des saveurs, des couleurs, des hommes et des femmes qui sur cette planète ont de plus en plus de talents. C'est sans fin. C'est ma passion. Voilà, je suis cuisinier, restaurateur, voyageur. J'enseigne, j'édite. Je ne me consacre que à ce qui concerne la chose de cuisine, de ce qui nourrit l'individu. Et ce qui me plaît, c'est de nourrir mon contemporain, pas nourrir le consommateur de demain, celui d'aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui, il est curieux, zappeur, infidèle, surinformé, suralimenté, surstressé, surpressé. Il faut encore l'étonner. Et pour ça, il faut y donner beaucoup de cœur. Non pas lui raconter des histoires, lui raconter une histoire qui est celle que chaque chef dans mes restaurants incarne. C'est une part de sa personnalité qui partage le consommateur, qui franchit la porte d'un de nos lieux. C'est ce qui me plaît, de dessiner le restaurant de demain, que nous ouvrons un restaurant très bientôt sur la Côte d'Azur, qui est un salon de thé, un salon de chocolat, glacier, boutique de chocolat, avec une nourriture qui est celle de là où on se trouve. On voit la Méditerranée, non, c'est une nourriture de la Méditerranée, on est au bord de l'eau, donc ça sera une nourriture de terre et de mer, ça sera une nourriture qui ressemble au lieu dans lequel nous nous trouvons. Donc c'est tout ça qui me plaît de dessiner, de définir les collaborateurs qui, à leur tour, vont porter l'âme de ce lieu.
Vous avez vu le consommateur évoluer entre vos débuts et maintenant ?
Mais oui, le consommateur, il est informé, il est curieux, zappeur, infidèle.
Il n'était pas comme ça au début, à vos débuts.
Non, mais parce que les moyens de communication d'aujourd'hui nous permettent d'accéder. On peut tout savoir en temps réel de ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas un lieu où l'on va sans savoir avant. On est surinformé, peut-être trop. Est-ce que la part de découverte est encore suffisante? Oui, la réponse est oui. Mais ça nous permet d'y aller avec l'esprit ouvert pour se faire plaisir. Moi, je vais jamais dans un endroit pour chercher le défaut. Je vais chercher le talent, et le talent, il y en a partout. Il y a peu d'endroits où on arrive par hasard, on n'a pas un plaisir immense de... Parce que bon, bien sûr que je vais pas à l'aventure, je suis toujours... On m'a toujours donné une indication, le talent est partout, le talent n'a pas de religion, de couleur de peau, le talent n'a pas de nationalité, la compétition est là, il faut aller la chercher. Voilà, ce qui me nourrit, c'est ce que je vais trouver demain. Après-demain, le mois prochain, je retourne au Japon. Voilà, j'étais à Barcelone la semaine dernière. Voilà, je suis impressionné par le niveau de qualité que je peux trouver. Donc, il ne faut pas dormir. À Maury, il faut continuer. Et si on veut courir devant, il faut s'entraîner tous les jours.
À Maury, tu as été moteur de la labellisation écotable du Meurice. Vous avez obtenu 3 écotables. Bravo pour cela.
Merci.
Qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie d'être labellisé?
En fait, tout d'abord, c'est un travail qu'on faisait depuis longtemps, comme j'expliquais avec les valeurs du chef Alain Ducasse, autour du sourcing, des produits, de la qualité, des approvisionnements quotidiens au restaurant. Après, je trouvais intéressant de montrer, grâce à ce label. Pour moi, c'est une source très fiable, parce qu'aujourd'hui, des labels, il y en a beaucoup. De savoir lequel était le bon, et je pense que Écotable aujourd'hui a un contrôle, une vision très globale de tout ça, et je pensais que c'était une fierté aussi pour nous en tant que restaurateurs d'avoir cette récompense là.
C'est quoi pour toi un restaurant éco-responsable?
Un restaurant éco-responsable, d'abord, c'est un restaurant où on va prendre soin de la nature, on va la respecter. Aujourd'hui, on fait un travail qui est il y a quelques années à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que à une époque, on disait je veux faire à telle saison, je veux faire des asperges, je veux faire des morilles. Aujourd'hui, c'est la nature qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que si on a des belles morilles, on va faire des belles morilles. Si on n'a pas de belles morilles, on va pas faire de morilles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si les asperges, ils sont plus à la bonne maturité, s'ils sont trop secs, si les petits pois sont pas assez sucrés, s'ils sont gros, s'ils sont farineux, on va pas les faire. Ça sert à rien de forcer les choses. Et c'est cette vision-là qui m'a donné envie déjà, voilà, de prendre les choses à contre-pied et comme je le disais tout à l'heure, si on a des bons produits, je pense qu'on fait déjà une bonne cuisine. On rajoute un peu d'amour et les choses se font ainsi.
Alain, vous, en 2014, vous lancez la cuisine de la naturalité. De quoi s'agit-il et comment est-ce que vous avez eu un déclic par rapport à ce qui arrive aujourd'hui ?
Ce déclic, il remonte quand je suis adolescent et quand ma grand-mère dit qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? On va au jardin. Donc finalement, c'est l'aboutissement, certainement un demi-siècle plus tard, malheureusement, enfin, ou heureusement, c'est l'ombre portée de l'ADN de ce que j'ai goûté quand j'étais petit. Finalement, une cuisine aujourd'hui, avant d'être bonne à manger, elle doit être bonne à penser. Le consommateur d'aujourd'hui, il n'est pas ignorant de ce qu'il mange. S'il choisit de manger du bœuf, il choisit de manger du bœuf. Il faut, en tout cas, moi je suis pas un ayatollah contre le bœuf. Je dis du bœuf, il faut manger beaucoup moins souvent, de meilleure qualité, ce qui permettra la juste rétribution de l'éleveur. Ouais, il faut manger beaucoup moins, il faut manger moins de protéines animales, il faut manger plus de céréales, plus de légumes, moins de gras, moins de sel, moins de sucre. En résumé, la cuisine avant d'être bonne à manger, il faut qu'elle soit bonne à penser.
Est-ce que vous avez l'impression que les chefs de notre génération, ils ont pris conscience de leur rôle sur ces questions environnementales ?
Oui, mais il y en a encore plein qui déclarent et finalement peu qui font. Il y a toujours plus de monde chez McDo que dans des restaurants végétariens ou végétaliens, soyons clairs.
Et qu'est-ce qui aiderait à aller plus loin ?
La prise de conscience, elle met du temps à entre ce qui est écouté et ce qui est fait, ça met un peu de temps. C'est comme la responsabilité, je dirais, aujourd'hui, pour respecter ce qui est éthique et durable, je dirais éthicable, c'est un peu de temps. C'est entre la prise de conscience et l'action réelle, il faut un peu de temps, soyons clairs. Oui.
Amaury, est-ce que tu te considères comme un chef engagé aujourd'hui ?
Moi, je me considère comme beaucoup de mes confrères, beaucoup de jeunes chefs. De plus en plus, je trouve qu'il y a un investissement. Après, comme le dit le chef, voilà, aujourd'hui, je pense que la labellisation écotable, ça nous permet de montrer, de justifier nos propos.
Permet, nous oblige. Okay. Il faut toujours qu'il y ait une part d'obligation. C'est bien.
Et je pense que voilà, grâce à ça, on met des actes aux paroles, quoi.
Alain, vous êtes à la tête de plusieurs restaurants. Ma première question, donc, est-ce que tous vos établissements sont engagés ?
D'abord, on va résumer. Quand j'arrive dans un lieu, on regarde de quoi on dispose. Ce que l'on sait, c'est que l'on fait là où l'on est. Ce que j'ai, ce que je sais, c'est ce que je fais là où je suis. On essaie d'importer le moins possible. On va importer de l'huile d'olive, éventuellement de la truffe. Ici, c'est le restaurant de haute gastronomie. Mais on va se contenter de ce que l'on trouve dans le continent, dans le pays, dans la ville. Voilà, donc c'est notre première démarche, c'est de quoi nous disposons. Nous essayons d'importer le moins possible, d'avoir du talent avec ce que la nature nous a donné. Essayer de faire une proposition différente dans la ville où nous nous trouvons. Voilà. Donc on est en harmonie. Donc est-ce que nous sommes parfaits ? La réponse est non. Est-ce que nous tendons à l'être ? La réponse est oui. Ouais, puis chacun est un acteur, chaque chef. Je regarde ce qu'ils font quotidiennement. Bah, ils font bien, ils font de mieux en mieux. On n'est pas les derniers de la classe.
Vous choisissez vos chefs en fonction de ça ?
Oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, 85% de mes chefs, ils sont de l'écurie. Ils ont commencé il y a 10, 15, 20, 30 ou 35 ans. Bon, voilà, ils sont. Il y a une émulation, il y a une. Par capillarité, je dirais, ils s'inspirent les uns des autres. Donc, ils sont en compétition. Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Donc, ils veulent démontrer qu'eux aussi, ils ont une action durable sur ce qui se passe sur la planète. Ils ne sont pas ignorants et on les pousse à cela. Enfin, la naturalité, c'est pas un hasard. Donc ça, à nombre porté, ça inspire l'ensemble des collaborateurs dans le monde. Est-ce qu'on peut faire la même cuisine à Las Vegas que celle qu'on fait au bord de la Méditerranée ? La réponse est non. En tout cas, on y tend.
Amaury, comment tu fais pour former tes équipes à ces questions-là et que tout le monde soit impliqué dans la démarche environnementale ?
En fait, depuis qu'on a repris, on s'est vraiment assis avec mon adjoint Dimitri sur qu'est-ce qu'on allait mettre en œuvre de plus. Donc, on fait beaucoup du travail aussi sur les déchets, la gestion des... Aujourd'hui, on va utiliser, et c'est ça qui est la complexité du cuisinier, en fait, c'est d'optimiser, que ce soit la tête du poisson à la queue, en passant par l'arête. Aujourd'hui, on travaille énormément là-dessus. Le premier amuse-bouche qu'on a ici, la première attention qu'on a aux clients, c'est une patte de poulet. Vous voyez, c'est une démarche. Déjà, je trouve ça ludique, ça casse, ça brise la glace dans cette salle majestueuse, ça porte la discussion, ça détend l'atmosphère. Et en plus de ça, ça met le pied à l'étrier directement à où est-ce qu'on veut aller, notre histoire, notre éco-durabilité aussi vis-à-vis de ça. Et tout au long du repas, on termine la partie salée par un bouillon d'infusion avec toutes les épluchures de la journée qui vient aider à digérer. C'est un peu notre trou normand en fait. Mmh. Hein. Ça aide à digérer, à rafraîchir, à préparer le palais pour le fromage et pour la pâtisserie. Quoi.
Ça m'amène à la question de la spécificité du restaurant de palace. Parce qu'ici, on est dans un palace. Est-ce que pour toi, c'était plus facile d'avoir cette démarche ou au contraire, ça a rendu plus difficile le fait d'être dans un palace ?
Alors, palace, ça veut dire aussi beaucoup d'attentes et d'exigences des clients. Après, c'est pas une étiquette. Hein. On peut être chacun à son niveau peut avoir cet engagement-là. C'est pas parce qu'on est dans un palace ou on est dans un endroit. Après, je trouve que ici, c'est plus compliqué parce que les clients, il faut leur faire comprendre des fois. Vis-à-vis de leurs habitudes, que aujourd'hui c'est pas la saison de manger une salade de tomates parce qu'on est le 15 novembre et ainsi de suite. Mais quand c'est bien expliqué, la salle ici fait un travail extraordinaire avec Olivier, avec Julie, avec Alban, et ça c'est facile en fait. Il faut juste être pédagogue un peu. On n'est pas des donneurs de leçons, on est juste là pour les accompagner dans la compréhension de ce qu'on a envie de faire.
Et t'as l'impression que ta clientèle, elle évolue sur ces questions-là et qu'il y a des attentes qui se sont créées ?
En fait, je pense que les gens aujourd'hui veulent revenir au vrai. Et je pense qu'ici, on tend à ça. On est dans une vision où on fait la cuisine avec honnêteté, avec sincérité, avec beaucoup d'amour. Et je pense à partir de là, le client, il peut que comprendre et suivre ce qu'on fait.
Et vous, Alain, vous avez aussi bien ouvert, officier dans un établissement comme cela, que ouvert des restaurants, des kiosques de burgers végétales. Comment on arrive à avoir la même démarche, ou en tout cas à tendre vers cette même démarche, alors qu'on est dans des concepts complètement différents ?
L'attention portée à la sélection rigoureuse de chaque ingrédient, un modeste pois chiche, une modeste lentille, un modeste légume. Pour lui donner du talent, il faut donner de l'amour. Donc finalement, ça marche et... Il y a un public pour chacun et j'ai la même attention pour le Burgal que pour le restaurant Sapit, qui est un restaurant à 95% végétalien, jusqu'à la haute gastronomie du Meurice, de notre hôtel à Versailles. Voilà, toujours la même attention, la même passion, le même public, parce que le consommateur d'aujourd'hui, quand je dis les zappeurs, il peut voyager d'un restaurant à un autre, d'une proposition à une autre. Il est curieux et il faut le satisfaire, donc il faut l'étonner, il faut pas dormir. Voilà, je répète, hein, la compétition est partout, mais l'action du durable, elle est actée. Il faut pousser, le consommateur, il faut pas lui raconter des histoires, il faut lui raconter une histoire et être convaincu de l'histoire et que la proposition soit en harmonie à ce qu'on lui a raconté, que la promesse soit délivrée. Et ici, nous délivrons la promesse et je trouve que la démarche d'Amaury, elle est clairement affichée, on va continuer. On va pas être pris en défaut. Ça fera école. Tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, bah, ils partiront petit à petit. Ils auront envie de faire la même chose. Donc, c'est la mesure, la notion d'exemplarité qui est la plus importante finalement.
Pour continuer dans la question de la compatibilité entre environnement et palace, un cliché qu'on peut entendre par rapport à ça, ça va être le gaspillage alimentaire. Le fait qu'un palace... Alors, tu nous as un peu dit le contraire là, en disant que vous utilisez l'intégralité du produit.
Voilà, on utilise intégralité. Tout ce que la terre nous donne et qu'on n'utilise pas, on lui redonne. Je travaille avec le jardin zone sensible, partie poétique à Saint-Denis.
Où, super endroit.
Tout le compost ici, il y a un tri des déchets entre les matières organiques et ou non, ce qui est recyclable et ainsi de suite. Il y a vraiment un travail acharné dessus. Tout ce qui est les cendres aussi qu'on redonne, tout ce qu'on va pas utiliser en herbes fraîches, on va les faire sécher pour s'en servir dans le fumoir. On a vraiment, on va au bout des choses. On fait pas les choses pour dire voilà c'est de la déco ou faire de la belle parole. Nous ça nous intéresse pas le blabla. Nous ce qu'on veut c'est du concret, du goût, de la saveur. Je dis souvent à mes cuisiniers c'est toujours meilleur dans l'assiette du client que dans la poubelle. Et c'est vrai. C'est pourquoi on va juste à peine gratter la carotte. Si voilà aujourd'hui les temps changent. On fait une cuisine aussi avec des aspérités et je trouve que il y a la cuisine c'est pas forcément une belle carotte qui est bien droite, c'est l'amour, l'attention qu'on va lui porter, le juste assaisonnement, comme le disait le chef, la juste cuisson. Et c'est ça qui va faire que le plat va être magnifique. Ce qu'il y a, le souvenir, c'est ça. Et ça passe par la pédagogie. Et les jeunes aujourd'hui, je pense qu'ils sont rentrés dans cette ambiance-là aussi, de cette vision. Plus on les prend jeunes et on les forme, on leur montre, on leur explique le pourquoi du comment, et plus ils comprennent, ils adhèrent et ainsi de suite. C'est effet boule de neige après, hein, par la suite.
On en a parlé un peu en off tout à l'heure de la difficulté de recruter en ce moment. Est-ce que tu as l'impression que ça, c'est quand même un argument pour faire venir les gens, les jeunes, à la cuisine, à la salle, le fait d'avoir cet engagement?
Moi, je pense que tout est bon à prendre. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de découvrir, ils ont envie d'apprendre, ils ont une soif constante d'information. La technologie, comme le disait le chef, va très vite. Et si on s'endort, bah en fait le cuisinier, il les a peur, il est comme le client. Donc s'il apprend plus rien, il s'en va. C'est ça qui est, donc aujourd'hui, il faut donner, il faut instruire,
les embarquer, il faut embarquer les équipes. Leur faire vivre une passion. Et s'ils l'ont pas, il faut leur faire découvrir la passion. Il faut vivre avec passion intensément.
Sur la cuisine de légumes, toi tu l'as toujours fait ou c'est quelque chose que vraiment que tu as appris avec Alain Ducasse?
Bah, moi j'ai quitté l'école hôtelière et je suis arrivé directement au Louis XV. Et quand on était au Louis XV, il y avait déjà le chef quand il y était, il y avait déjà un menu tout végétal. C'est pas quelque chose de nouveau en fait pour nous. Il y a toujours eu cet amour du légume, cet amour du végétal et j'ai travaillé avec beaucoup de chefs et arrivé à la naturalité, moi j'étais au tout début avec Romain Médère et c'est vrai que ça a été un travail acharné parce qu'on a poussé les codes presque à leur paroxysme. Mais pour moi c'était très intéressant parce que j'ai vu des choses hyper intéressantes, un travail où on allait pousser le légume dans ses retranchements, dans les assaisonnements, dans des goûts qu'avant on n'avait jamais fait. Avant, il fallait que le légume il soit presque magnifique, parfaitement droit, avec la fane parfaitement verte, pas donc de coloration, pas d'as. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On va pousser plus dans les aspérités, on va griller, on va limite brûler, on va apporter des touches, des parfums qui sont totalement différents.
Donc, t'as dû limite déconstruire ce que t'avais appris au lycée hôtelier.
Ah, ouais, oui, carrément. Oui. Mais moi, mon apprentissage a commencé.
Ou construire.
Non, mais mon apprentissage a vraiment commencé en quelque sorte dans la vie réelle. Pour moi, l'école de la vie, c'est la meilleure école. Attention, je suis pas en train de blâmer les écoles hôtelières, mais on survole à l'école hôtelière. On survole pas mal de choses, on met un pied. Mais quand on arrive dans la vie active, c'est là où on apprend.
Il faut faire les bonnes maisons.
Oui.
Faut pas perdre de temps, en fait. Faut se nourrir, faut se cultiver, faut apprendre. Faut transmettre, faut partager, faut être curieux, faut regarder ce qui se passe à côté pour faire autre chose. Voilà. C'est une école de vie, la cuisine, c'est à la fois un fabuleux ascenseur social, mais il faut se donner la peine de regarder, d'aller voir à côté. Aujourd'hui, avec Internet, on a la chance de pouvoir tout savoir en terrain de ce qui se passe dans le monde. On peut se nourrir de tout, donc il ne faut pas manquer l'occasion de s'enrichir, il faut aller goûter chez le voisin, non pas pour faire ce qu'il fait, mais pour faire différemment, pour raconter son histoire. Vous savez, quand je remets des diplômes dans mon école à Meudon, je leur dis, j'ai 74 nationalités en ce moment. Quand vous partirez, vous aurez un bagage suffisant pour aller conquérir votre cuisine. Vous allez codifier votre cuisine. On a 80 Indiens en ce moment. La cuisine indienne est fantastique. Je rentre au New Delhi là, il y a 3 semaines. Voilà, donc la codification que nous, Français, avons enseignée permettra d'améliorer la cuisine indienne, qui essentiellement est végétale. Mais notre rigueur, notre discipline, notre savoir-faire, notre ADN du geste, l'assaisonnement, de la cuisson, de la parfaite réduction, de la parfaite harmonie, avec les mets, les vins, de la parfaite hiérarchie, va permettre d'améliorer la cuisine indienne. Et j'avais un jeune Indien qui m'a fait la cuisine, 23 ans, il a pris ses jeunes élèves, enfin qui étaient à l'école avec lui, on fait un déjeuner extraordinaire. Quand il aura passé un an ici, en France, à apprendre la méthode française, et qu'il va synthétiser tout ça, il sera un des meilleurs cuisiniers indiens, très certainement. C'est ça notre passion, de transmettre sans limite, sans frontières. Tout le monde a participé à une évolution culinaire, je dirais à une réévolution, presque à une révolution.
On pose la question ici de la transmission et donc forcément de la formation au métier de cuisinier. Alors vous, Alain, vous avez carrément créé votre école. Est-ce que vous l'avez créée parce que justement vous trouviez que c'était pas satisfaisant la formation actuelle?
Non, pas du tout. C'est pour partager avec le plus grand nombre, le plus vite possible, tout ce que je sais, de donner des indications, de donner des routes, de dire j'ai mangé ça, j'ai déjà vu, donc tu dois faire autre chose. Donc finalement, je synthétiseur de ce que je vois dans le monde. On essaie de transformer en contenu pédagogique, mais surtout, on essaie de d'anticiper. On n'essaye pas de suivre la mode, on essaye plutôt de la créer, voire d'anticiper la tendance. C'est ce qu'on a fait avec les végétales.
Mais quand même, toujours aujourd'hui, le plat traditionnel, ça reste un plat avec un gros morceau de viande et un accompagnement petit. L'UNESCO l'a même codifié.
C'est pas le cas ici,
mais...
Ah oui, mais l'ombre portée de ce que je fais, c'est ce que nous enseignons, bien évidemment, la notion de durable, d'éthique, d'éthicable, de moins de gras, moins de sel, moins de sucre, la protéine en juste quantité, très clairement. Il faut inverser la relation, la proportion. On va dire qu'il y a 25 ans, la proportion, c'était 20% de végétal, 80% d'animal ou de protéines animales. Aujourd'hui, très clairement, la règle, elle est 80% d'animal, 20% de végétal. Et quand on parle d'animal, c'est, si possible, des protéines issues de la mer, de poissons de pêche durable, ou dont on connaît parfaitement la période de reproduction, très peu de protéines animales issues de la terre. On sait ce que ça coûte. J'ai pas dit, comme un ayatollah, qu'il fallait plus jamais en consommer. J'ai dit qu'il fallait en consommer infiniment moins, de meilleure qualité, payer au juste prix, afin que l'éleveur puisse en vivre et non pas en survivre.
Pour toi, Amaury, l'avenir, il est végétarien?
Moi, je pense qu'il faut un mix des deux. Comme je dis le chef, voilà, il faut manger moins, mais mieux. Et moi, j'adore la viande, j'adore le poisson. Il y a faut pas changer de vie non plus, attention. Il faut juste avoir un respect encore avec les producteurs, les éleveurs, avoir une réflexion aussi sur l'éco-responsabilité. Je veux dire, une bête qui va faire son lait pour le fromage, il y a toujours une suite logique, et on est dans un pays où on mange quand même beaucoup de viande. Moi, j'ai vécu chez ma grand-mère qui était maraîchère, qui a, comme le disait le chef, toutes les entrées c'était des crudités, l'été et l'hiver c'était tout le temps des soupes. Il y avait toujours un travail comme ça, il y avait toujours un poisson une fois par semaine qui était le vendredi, et une viande ou deux dans la semaine. Mais moi, j'en ai pas souffert, et j'ai pas été malheureux avec tout ça. Je veux dis pas qu'il faut. Moi, j'adore la viande, j'adore le poisson. Juste que ce soit des bons produits, c'est tout.
Le vrai problème aujourd'hui, c'est quand même, nous sommes encore sous l'influence du mou, du gras, du sucré. L'influence, elle est plutôt anglo-saxonne, elle est plutôt nord-américaine. Il faut se débarrasser de ça, de l'obésité. C'est la prise de conscience est actée, mais la réalité, elle est moins. Donc la vérité, c'est que les adolescents, dans beaucoup de pays du monde, dit les pays riches, eh bien, la nourriture est trop riche. Donc, c'est un vrai sujet.
Ça pose la question aussi de l'accessibilité du prix de cette nourriture.
Je suis pas d'accord.
Je vous écoute.
Se nourrir mieux, ça coûte pas plus cher. C'est une décision du matin. Manger moins de protéines, la protéine, elle coûte cher. La moyenne de protéines, elle coûte cher. Et puis là, elle coûte surtout cher à la santé. C'est-à-dire pour soigner,
on est bien d'accord.
Pour soigner les individus qui sont mal nourris, ça coûte infiniment plus cher. Ça c'est une certitude, par contre.
Est-ce que c'est la raison?
J'ai écrit dans Manger citoyen, c'est un livre que j'ai publié il y a 4 ou 5 ans. Bon, tout est dit, quoi. Il faut manger en responsabilité, en connaissance de ce que l'on mange. Chacun est libre, mais il doit savoir ce que ça coûte à la planète de manger différemment que d'être précautionneux de cette dernière.
C'est la raison pour laquelle vous avez voulu ouvrir des établissements très différents aussi?
Bien sûr, mais très clairement, l'orientation, l'ombre portée de la naturalité est aujourd'hui dans tous mes restaurants, jusqu'à faire Sapit, qui est un restaurant quasi végétalien, puisqu'on n'utilise que 5% de protéines animales. Donc ça devient un assaisonnement, et ça marche aussi. C'est pareil pour les desserts. La dessertalité, c'est comme la naturalité, c'est utiliser moins de gras, moins de sucre, moins de farine, moins de féculents, enfin voilà, de prendre le végétal, le fruit qui n'a pas le fruit qui n'est pas passé au frigo, qui n'a pas coûté du froid, qui n'a pas perdu, enfin qui a parfait de maturité, etc. Il est infiniment différent. Il faut le regarder, il faut le cuisiner justement. Point. Enfin voilà, finalement c'est une histoire assez simple, mais il faut l'accepter, il faut l'incarner, il faut décider.
Amaury, toi, tu te verrais cuisiner dans un restaurant qui n'est pas gastronomique à l'avenir?
Bien sûr, c'est un peu mon rêve.
Ah bon?
Ouais.
Mais la gastronomie, ça commence au-delà de 20 euros. À partir du moment où on mange en ville au-delà de 20 euros, c'est de la gastronomie. Donc, sinon, avant, c'est de la nourriture. Se nourrir à moins de 10 euros, il faut se nourrir. C'est comme l'essence dans une voiture. Il faut nourrir le corps et l'esprit. Et pour cela, il faut s'alimenter. Mais la gastronomie, au-delà de 20 euros, on considère que manger en dehors de son foyer, au-delà de 20 euros, c'est déjà de la gastronomie. Donc, l'attention portée à nourrir le monde, le plus grand nombre, c'est de faire attention à ce que l'on mange. Et nous avons un rôle. Vous savez, nous, on est la haute couture. La haute gastronomie, c'est la haute couture, mais il y a le prêt-à-porter, et il y a le country chic, il y a nourrir, enfin, habiller et nourrir tout le monde avec une attention dans ce que l'on fait. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans l'enseignement. Et, je dis toujours, l'ombre portée, elle n'est pas qu'économique, elle est de donner du sens et d'être comme un modèle, parce qu'on regarde toujours la gastronomie. La gastronomie, elle peut descendre jusque dans la rue. La gastronomie peut descendre jusque dans la rue, puisque au-delà de 20 euros, je considère que nous sommes déjà dans la gastronomie.
Qu'est-ce que vous pensez de la fausse viande ?
Pas d'accord. Non, mais la fausse viande, je suis absolument pas d'accord. Parce qu'on peut créer le burger, c'est une galette végétale. Vous avez trouvé suffisamment de calories pour vous nourrir. Il n'y en a pas besoin de ressembler à autre chose que qui nous sommes. Ce sont des légumes et des céréales. Je ne vais pas essayer de mettre du jus de betterave pour faire croire que c'est du sang. Je trouve que c'est dramatique de vouloir faire manger aux gens autre chose que ce qui est naturel. Voilà. Mais je ne dis pas qu'on ne va pas subir, mais en tout cas, ce n'est pas ma recherche de consommer. Je ne suis pas convaincu de l'avenir de cela. En tout cas, cela ne m'intéresse pas. J'irai goûter. Hein. Je vais goûter, mais c'est pas ma vision des choses aujourd'hui.
Pour conclure ce podcast, je vais vous poser 3 questions. La première est plus politique, c'est la question de savoir quelles seraient les mesures ou quelle serait la mesure qui pourrait aider la gastronomie à se transformer vers plus de durabilité.
Bon, d'abord, apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à savoir ce que c'est une bonne pomme.
Donc l'éducation.
Un bon poulet une fois par semaine. J'étais allé discuter avec l'ancien ministre, Julien Normandie, qui avait un rêve, et Julien ne l'a pas transformé. C'était au tout début de son mandat de ministre. Il avait un rêve, nous avons nourri un rêve, le temps de l'heure que j'ai passé avec lui, de dire tous les jeudis, midi, on va manger un poulet fermier dans toutes les écoles de France et de Navarre, on va manger un légume frais et on va manger une pomme cuite ou crue. Et je lui disais, cela est un rêve. Et d'ailleurs, c'est resté un rêve. Parce que c'est moins aisé qu'il n'y paraît. Parce que dans chaque région de France, il y a des poulets de région. Chacun a un label, a une origine protégée. Des pommes, c'est pareil. On a une passion pour les pommes. Donc, des volailles, pommes, légumes frais, bien évidemment. Cela est resté un rêve. Puisque, en fait, c'est moins aisé qu'il n'y paraît. On n'a pas réussi à le faire. Et bon, on peut rattaquer, mais ça commence par l'éducation dès la maternelle, en fait, apprendre à goûter un radis. C'est pas une question de moyens, en plus. C'est une question que les commissions de parents d'élèves sont encore dans l'idée qu'il faut de la protéine impérativement 2 ou 3 fois par semaine. Et alors, tant qu'on n'est pas arrivé dans les commissions de parents d'élèves, où les mamans ou les papas influent, hein, ben je pense qu'il faut changer il faut améliorer le logiciel pour que il vaut mieux manger du bon végétal que du mauvais, de la mauvaise protéine animale, d'un poulet dont on ne sait d'où il vient. A-t-il vu un jour la terre? J'en suis pas certain. Je dirais presque que les jeunes enfants mangent du poulet quasiment virtuel. Bon, je pense que il vaudrait mieux manger moins de protéines dans les cantines scolaires. Et une protéine juste, en moins de quantité, de meilleure qualité, etc. Enfin, voilà. Le discours, on le connaît. J'avais vu le ministre de l'Agriculture, j'avais vu le ministre bancaire. Je vous rassure, rien n'a bougé pour l'instant.
Parce qu'il y a la culture des parents, mais il y a aussi le lobbying de la viande qui est très fort en France et qui ne veut pas bouger sur ces questions-là.
Tout à fait. Mais rien n'est insurmontable. C'est une question de décision.
Amaury, toi, qu'est-ce qui t'aiderait demain à aller encore plus loin et à faire que plus de restaurants s'y mettent?
Bah, comme on le fait, nous, on a commencé il y a quelques temps cette année école comestible.
Ah ouais.
Donc
Camille Labro.
Ouais, avec Camille Labro, où c'est compliqué de se détacher, d'avoir du temps, mais dès qu'on en a, on a toujours des actions, avec le chef, par exemple, pendant le confinement, on a fait beaucoup de choses pour les hôpitaux, pour les personnes isolées. Donc beaucoup de femmes isolées, des gens en situation de handicap aussi, qui ont souffert du temps. Et moi, dès que j'ai du temps, ça me touche et ça m'affecte, en fait, que du coup ces gens-là, je pense qu'il faut leur donner du temps, de la passion, de l'amour, de l'énergie. Et c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et les enfants, je trouve que c'est la meilleure chose qui existe. En fait, c'est comme une racine d'un légume, en fait. Ça va pousser. Donc, si à la base, il a été nourri de plein de bonnes choses, je pense qu'en grandissant, il va continuer à s'émerveiller de tout ça.
Et pourquoi pas des cours de cuisine obligatoires dans toutes les écoles?
Pourquoi pas? En fait, ça, c'est une réflexion plus haute. Je pense que j'ai pas encore cette vision et ce regard. Après, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont à refaire, mais il y a tellement de choses qui sont bien faites aussi.
C'est moins aisé qu'il y paraît, je vous le garantis.
J'imagine.
Je fais du conseil depuis des années pour la restauration scolaire. Je vais de la restauration scolaire à la restauration en milieu hospitalier. Cela n'est pas aisé. Parce que la première des notions pour la nourriture, pour le plus grand nombre, c'est l'hygiène. Et l'hygiène alimentaire régit tout, en fait. Alors, il y a peu de chances qu'en France, de 3 ans à 99 ans, vous soyez intoxiqué dans la restauration de masse. Il y a peu de chances. Mais ça annule beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, le choix a été fait d'une parfaite hygiène alimentaire. Il manque le goût et l'histoire de manger différemment, très clairement.
On peut peut-être être intoxiqué, par contre, au long cours avec des mauvais produits, mais pas être intoxiqué en une fois.
Tout à fait. C'est une maladie qui coûte, puisque l'obésité, on sait que ça coûte plus d'argent que de nourrir bien les enfants dès leur plus jeune âge. Mais j'ai bon espoir, on est toujours dessus quand même.
Ma deuxième question, ce sera si vous devez donner un ou plusieurs conseils à une personne qui voudrait se lancer dans le métier, ce serait quoi?
Alors, courageux ou inconscient, mais un peu des deux. C'est pas aisé. C'est pas aisé. La compétition est féroce aujourd'hui. La compétition est internationale. Donc, si vous n'avez pas la mission d'être le meilleur, il faut pas commencer. C'est sérieux, ce métier, et regarder avec beaucoup d'intérêt. Donc, dans la compétition, il faut courir plus vite si vous voulez regarder les autres dans le rétroviseur.
C'est plus compétitif qu'avant?
Oui, bien sûr. La réponse est oui, parce que toutes les nations sont venus, et cela est bien, il n'y a pas de couleur de peau, de religion, d'ethnie qui sont meilleurs les uns que les autres. C'est aujourd'hui la connaissance, contrairement à la pauvreté, la connaissance est à la disposition de tout le monde. On peut pas corriger la pauvreté, on peut améliorer sa connaissance.
Et toi, Amaury, quel conseil tu donnerais?
C'est toujours cette phrase qui est ancrée dans ma tête, c'est pas la mienne, hein. C'est une phrase de Winston Churchill qui dit « never give up », c'est-à-dire « ne jamais abandonner ». Et je pense que quand on a un rêve, quand on veut aller quelque part, aussi accrocher et aller au bout et donner tout ce qu'on a. Et c'est en surpassant chaque jour. Voilà, moi j'ai vu des chefs au-dessus de moi quand j'ai commencé, quand je suis arrivé à Monaco, je me suis dit, moi mon rêve, ce serait d'arriver d'un jour avoir la chance d'arriver à cette place-là. Et j'ai cru en mes rêves. Et 14 ans plus tard, j'y suis. Quoi.
Ça a été difficile pour toi?
Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Mon père m'a toujours dit, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais voilà, il faut s'accrocher, il n'y a rien de facile, il faut se donner les moyens d'y arriver, et c'est ça qui fait que faut qu'ils y croient, les jeunes, faut qu'ils aient faim, qu'ils aient envie de se nourrir.
C'est quoi l'avenir pour vous?
Okay.
Alain?
Lui, il a tout l'avenir devant lui. il va me piquer ma place. Je ne sais pas, c'est ce que je ne connais pas encore, et je vais regarder, savourer avec passion ce que je vais voir demain, après-demain. Voilà, je suis en quête permanente de ce que je ne connais pas encore. Et sincèrement, je n'ai pas de nostalgie du passé. Ce qui me séduit, c'est ce que je vais faire demain, ce que je vais découvrir demain. C'est assez merveilleux de savoir ce que l'on sait et de se dire que demain, c'est inépuisable. En fait, notre industrie nous permet des rencontres uniques. Il faut savourer avec passion ce que je fais tous les jours. Je voyage. Voilà. Je suis curieux de tout, de tous les goûts. Je suis surpris au moins une fois par semaine. Surpris.
C'est beau. Voilà. Amaury?
Moi, je dirais les jeunes cuisiniers qui sont en bas, qu'ils ont 22, 23 ans, le côté humain, le côté l'écologie, tous ces rapports à la nature, toute cette éducation, cette évolution qu'il y a aussi, comme on disait, des réseaux sociaux et tout. Mais je pense que modernité ne rime pas avec évolution mauvaise, en fait. Il faut que ce soit des choses positives, qu'on soit plus dans la positivité, dans, comme le répète toujours le chef, l'hospitalité aussi, qui est primordiale dans ce métier aujourd'hui. Il faut réunir tout ça et que les gens récupèrent ce côté humain de la vie et plus ce côté écran et virtuel comme
quitter le monde virtuel pour repasser au monde du relationnel, de la haute qualité relationnelle. On a fait un label dans mon groupe, j'ai réuni ensemble mes collaborateurs. J'aimerais qu'on ait un label HQR, haute qualité relationnelle, les uns entre les autres, qu'on passe du monde virtuel à nouveau une qualité sociale.
Qu'on arrête les écrans et on se voit plus et on partage plus de moments ensemble.
On en fait encore souvent tous les jours, mais de moins en moins, il faut revenir à
au repas,
la notion relationnelle, au relationnel.
Ok, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.